Vous avez mis au point ici à l'EPIA un système qu'on va aller voir maintenant. Ça va nous permettre peut-être de nous déplacer parce qu'on est juste à côté du compost.
Impatience s'attrape aussi sur Facebook.
Et franchement, ça fouette. Hein.
Aujourd'hui, oui.
Lucille Solari, c'est vrai que tous les produits qu'on utilise en agriculture, dans les parcs, dans les jardins, etc., posent des problèmes écologiques et sanitaires. Remède.
Absolument. Trois solutions, en fait, Nancy, grosso modo. Le bio, bon, à peu près 10% de la production agricole en Suisse. Éventuellement traiter moins avec des molécules plus concentrées, peut-être moins toxiques. Là, la recherche du domaine avance, comme on dit. Ou alors agir à la source. C'est justement sur cette troisième solution qu'ont travaillé les chercheurs du Centre de formation Nature et Environnement de Lullier et la section agronomie de l'EPIA, la haute école du paysage, d'ingénierie, je ne voulais pas le dire celui-là,
oui, et d'architecture
de Genève. Voilà. Ils sont donc partis d'un constat, c'est que la grande majorité des résidus de pesticides responsables de la pollution que vous évoquiez à l'instant ne provient pas du traitement lui-même, comme nous l'explique maintenant le professeur Pascal Bovin, qui est professeur d'agronomie à l'EPIA, justement.
Les pesticides qu'on retrouve dans l'environnement, pour ce qu'on en sait, avec les études qui ont été menées, de 50 à 90-95 % proviennent de sources ponctuelles au moment où on les prépare, ou bien au retour du traitement, au moment où on lave les engins. Ce sont des fuites directes qui représentent vraiment la grande majorité de ce qu'on va retrouver après dans nos cours d'eau, dans nos eaux potables par exemple. Donc il y a un problème qu'il faut traiter à la source. Et une des façons de le traiter, c'est d'éviter cette source ponctuelle. Alors pour ça, il va falloir avoir une aire de préparation et de lavage sécurisée, c'est-à-dire étanche. Et puis ce qui coule sur cette aire, il faut le mettre dans une cuve. La question suivante, on verra qu'est-ce qu'on fait du contenu de cette cuve.
Vous avez mis au point ici à l'EPIA un système qu'on va aller voir maintenant. Ça va nous permettre peut-être de nous déplacer parce qu'on est juste à côté du compost. Et franchement, ça fouette. Hein.
Aujourd'hui, oui.
Voilà. Donc, on va aller voir ce système baptisé BioBed.
Oui, alors nous n'avons pas inventé les biobeds. Les biobeds sont apparus en Europe du Nord et typiquement pour des considérations comme celles qu'on vient d'avoir ensemble. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut traiter les effluents de sources ponctuelles qui sont la cible majeure si on veut réduire la pollution? Est-ce qu'on peut les traiter directement au moment de la préparation ou du lavage? Et pour ça, en Europe du Nord, on a inventé le biobed à la fin du XXe siècle, à toute fin.
Littéralement biobed, le lit biologique.
Le lit biologique. Ou alors, j'aime pas beaucoup ce nom-là parce que c'est du sol. Et le sol, c'est d'abord de la matière organique et des minéraux qui abritent une biologie intense. Mais quand on dit lit biologique, les gens pensent à de la phytoremédiation, pensent à de la biofiltration, etc. Non, là, c'est vraiment le sol qui fait le travail. Et le sol doit être en bonne santé, c'est-à-dire d'être tout à fait biologiquement actif, parce qu'après avoir retenu le pesticide dans le sol, il faudra que le micro-organisme le dégrade. Mais c'est vraiment en deux temps, et si vous n'avez pas le sol, vous ne pouvez pas avoir la dégradation qui va se produire là.
Quelle différence entre le biobed et le système d'EPIA?
Parce que pour faire simple, le biobed, en fait, c'est un système horizontal qui épure les rejets dans des bassins horizontaux, donc avec de la terre et de la paille. Et puis c'est un système ouvert, c'est-à-dire que voilà, ça, les effluents partent dans ce système, les eaux ruissellent, et puis après, il y a des rejets, évidemment. Donc le système est ouvert. Le système de l'EPIA, lui, est un circuit fermé. En fait, c'est une plateforme. Au-dessus, il y a un toit, évidemment, pour protéger des ruissellements des eaux de pluie. Sous nos pieds, il y a une dalle en béton, une grille d'évacuation, une cuve et un mur végétal. En fait, c'est une espèce de cage comme ça en métal. Et dans cette cage, il y a ce mur végétal avec des plantes, des fleurs, enfin diverses.
Ah, c'est joli en plus.
Justement, un des buts, c'est d'être joli. La suite nous est racontée par notre guide Pascal Boivin qui nous l'explique.
Alors sur cette aire de sécurisée, donc on va faire la préparation ou le lavage avec le tuyau, donc le karcher qui peut se trouver là. Et puis les effluents vont tomber dans cette petite grille et là ils sont conduits avec une petite pompe jusque dans la cuve qui est au fond là-bas. En gros, on a fait un radiateur à eau.
C'est une belle expression. Effectivement, ça ressemble à un gros radiateur pour donner une image.
Voilà, on veut se débarrasser de l'eau qui est un des constituants qui se trouve dans les fluents. Les fluents, c'est beaucoup d'eau et un peu de pesticides. L'eau, eh bien, on est bien content s'il repart sous forme de vapeur. Et le pesticide, lui, il va devoir s'expliquer avec le sol qu'on a mis dans notre radiateur. Et ce sol est entretenu par une végétation qui est là à la fois pour maintenir l'activité biologique du sol grâce aux sécrétions racinaires. Et en même temps, cette végétation tire l'eau dehors et la transpire. Donc, elle envoie de la vapeur d'eau. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, dans notre cuve, il n'y a plus rien. Et le but, c'est d'irriguer pour que ça pousse joliment.
Mais ça pousse drôlement bien pour de la végétation qui est alimentée aux pesticides. Hein.
Oui, alors là, on fait d'une pierre deux coups.
C'est-à-dire que...
Alors on fait d'une pierre deux coups. Hein, c'est-à-dire qu'on expérimente, vous n'avez pas les mêmes substrats ou sols dans les différents casiers. On teste des végétations, et notamment par rapport à ce qu'il pourrait y avoir de pire comme pesticides, type herbicides racinaires. Là, vous voyez, ils en ont reçu pas mal, ça ne les a pas trop gênés. Mais on teste effectivement des conditions sévères parce qu'on veut pouvoir offrir des solutions à peu près à tous les systèmes de production en sachant que ça réagit bien. Et après, l'autre dimension, c'est l'esthétique. C'est-à-dire que y a des gens, peut-être que pour un terrain de course, on sera content d'avoir des fleurs. Je ne sais pas. Entre une installation qui est cachée quelque part derrière une grange et puis quelque chose qui apparaît sur un terrain de jeu, on va peut-être pas avoir les mêmes requis esthétiques. Donc on veut aussi pouvoir offrir une gamme de plantes. Vous voyez, on en teste ici un certain nombre. Et on teste différentes propriétés, l'esthétique, la capacité à éliminer l'eau, puisqu'on veut qu'elle transpire, cette plante, et puis sa capacité à stimuler la biologie du sol dans le mur.
Ça veut dire que, puisque ces plantes, quelles qu'elles soient, sont alimentées aux pesticides, elles vont métaboliser les molécules chimiques ?
Ou non. Alors ça, pourvu pas, parce que si elles métabolisent des herbicides racinaires, elles vont mourir.
Question suivante, c'est comment font-elles pour survivre ?
Alors elles survivent parce que les goutteurs arrivent ici en surface du mur, et ils arrivent sur du sol. Et le sol retient le produit. Et la microbiologie du sol le dégrade. Donc déjà, le produit devient beaucoup moins actif parce qu'il est retenu par le sol, et ensuite la microbiologie du sol va le dégrader. Alors, ce ne sont pas des pesticides concentrés qui arrivent ici, puisqu'on est en phase de lavage, c'est dilué. Si on mettait une dose de traitement herbicide, on aurait la moitié probablement de ces petites cassettes là de mur, ces petites parties de mur qui auraient jauni.
En cette année internationale de la chimie, Lucille, évidemment, il est question des météos lourds.
Absolument, parce que c'est le grand avantage, le grand point fort de ce système BioBed revisité par l'EPIA, c'est qu'il ne se contente pas de filtrer les molécules chimiques comme on vient de l'entendre, il règle également leur sort à ces composants qui sont vraiment difficiles à éliminer et qu'on trouve aussi assez massivement dans certains traitements qui sont précisément les métaux lourds.
Oui, et ce ne sont malheureusement pas des molécules, mais même des atomes, des éléments du moins du tableau périodique. Et donc, on ne va pas les dégrader, à moins de faire une centrale nucléaire avec. Ces métaux lourds, il y en a dans plein de situations industrielles. Il y en a en situation agricole qui sont plutôt le cuivre, comme fongicide, et puis du zinc. Alors, c'est vrai qu'on a aussi tenu compte de ce problème, entre autres, quand on a inventé ce mur. C'est que les métaux lourds, s'ils sont apportés sur un biobed conventionnel, une grosse cuve remplie de substrat, en s'accumulant, ils vont petit à petit empêcher la vie microbienne du sol, du substrat, qui doit dégrader les pesticides. Donc il ne faut absolument pas qu'ils s'accumulent dans le substrat. Alors, on a deux solutions ici, sur lesquelles on a travaillé. La première, c'est que ce sont les végétaux qu'on a plantés sur notre mur qui vont rapporter des nutriments en fait, organiques au sol pour stimuler son activité biologique. Donc on ne rajoute pas de paille, on ne le rebrasse pas, contrairement à ce qui est demandé pour les biobeds classiques. De ce fait, nos métaux lourds vont rester en surface. Et donc on ne va pas contaminer l'ensemble du substrat. Malgré tout, on n'en est pas resté là parce qu'on a découvert que les lombrics adoraient vivre dans nos systèmes, ça ne les gêne pas du tout. Alors ils brassent, les braves. Et ça nous plaît parce que du coup, quand on coupe les plantes, on les remet en surface plutôt que de rejeter des résidus qui pourraient contenir quelque chose et c'est réincorporé par les lombrics. Mais ils ne sélectionnent pas, ils incorporent aussi le cuivre et le zinc, on l'a montré à nos mémoires d'étudiants. Bon, alors de ce point de vue-là, on a mis au point un pré-filtre à base de composés organiques aussi, recyclables, qui nous permet d'éliminer les métaux avant d'arriver au mur. L'objectif, c'est d'une part d'éviter d'avoir à intervenir, c'est toujours un travail de moins, et puis en même temps, de ne jamais devoir recycler le peu de sol ou de substrat qu'on a mis dans notre système de mur.
Quelle différence entre ce système, ce biobed amélioré, et le lagunage, par exemple, qui est utilisé dans certaines circonstances pour épurer les eaux usées, que ce soit d'une simple villa à une commune?
Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent, ou également on nous a dit, ben alors vous allez faire une tranchée filtrante, etc. Il y a des réponses différentes pour des effluents différents. Un lagunage, c'est de l'eau, en situation relativement statique, et il va y avoir une sédimentation et une certaine activité biologique dans le lit de gravier ou à la base du lagunage. C'est pas du tout le problème ici. Ici, on s'attaque à des molécules beaucoup plus persistantes et il faut mettre cet effluent en contact d'un sol. Et un sol, c'est pas un sédiment au fond d'un lac. Ça doit être aéré. Et c'est là seulement que se développe une activité performante et suffisante pour éliminer ces produits. Donc c'est vrai qu'il faut faire la distinction. C'est pas évident pour le profane, mais en réalité, on est dans du sol. Et là, par contre, tout le monde sait faire la différence entre du sol et un marécage. C'est du sol.
Pascal Boivin, est-ce que ça n'est pas ce type de développement, ce type de recherche, une forme d'encouragement à continuer à utiliser des produits phytosanitaires?
On a eu ce débat à l'interne, c'est clair qu'on a des gens qui ont des opinions plus ou moins radicales et qui nous disent mais enfin, il faut juste lutter contre ces produits et donc pas aller dans cette direction, vous allez ouvrir la porte à. Alors la réponse est plus compliquée que ça. D'abord, je disais, il y a un principe de réalité, c'est pas demain qu'on ne les utilise plus. Ensuite, si vous venez avec une thématique comme ça et vers des agriculteurs, mais même maintenant c'est eux qui viennent au devant, première chose qu'on fait, c'est de calculer la dimension du dispositif. Et évidemment, plus ils ont d'effluents, plus le mur sera grand, plus la cuve sera grande, ça leur coûtera de l'argent. La première réaction qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on a fait les calculs, ils nous disent, au fond, je peux réduire. Et ils divisent la taille, parce qu'ils vont rincer moins, parce qu'ils vont traiter moins, parce que voilà. Donc on a immédiatement cet effet. Donc vous voyez, c'est plus compliqué en fait que ce qu'on imagine. À la fois pour le principe de réalité, à la fois parce qu'il faut travailler ce problème avec les producteurs, et encore une fois les parquets, jardins, etc. Ben on s'aperçoit que se retrancher de sa tour d'ivoire en disant « il n'y a qu'à pas en utiliser », c'est à mon avis pas la bonne attitude. Évidemment que si c'est pris comme prétexte pour multiplier les traitements, ce serait un petit peu gênant. On n'est pas du tout dans cette tendance actuellement. Chez les producteurs, certainement pas. Bon, chez les fabricants, c'est un peu plus complexe. Ils proposent des molécules toujours plus actives, donc qui sont dosées toujours plus bas. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un impact. Ça veut dire qu'on a du mal à les trouver dans l'environnement, parce que la dose est extrêmement faible, mais elles sont très actives. Donc là, c'est un débat plus compliqué. Après, c'est une affaire soit de changer de système de culture, on est effectivement pour, et puis également de recherche pour arriver à des systèmes qui soient moins dangereux. De temps en temps, ça peut être quand même important d'avoir une solution face à des maladies endémiques.
Merci à Pascal Boivin de la Haute École du Paysage d'Ingénierie et d'Architecture de Genève. Il est donc professeur d'agronomie à l'EPIA. Lucie Solari, les privés peuvent avoir un système comme celui-là?
Alors, ça va viendre, comme disait l'autre. Ça va viendre parce que là, effectivement, c'est une grosse structure. Il faut quoi, 30 mètres carrés au moins pour venir avec le tracteur, etc. Mais à l'EPIA, on est parfaitement conscient qu'une grande partie des effluents, ça provient aussi des jardiniers du dimanche qui passent leurs pesticides et qui nettoient. Et effectivement, comme ils sont conscients de ça, ils sont en train de travailler sur des petites unités. Donc, d'ici quelques mois, peut-être, on aura ce genre de système aussi pour nous.
Impatience. Nancy Ypsilantis.